Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un des nouveaux professeurs fraîchement élus au Collège de France. Bonjour François Desroches, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Vous occupez depuis le 2 avril 2015, date de votre leçon inaugurale, la chaire intitulée « Histoire du Coran, texte et transmission ». Vous êtes orientaliste, islamologue et paléographe. Je rappelle aux auditeurs que la paléographie est la science des écritures anciennes. Vous êtes plus que reconnu, vous êtes notamment membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de nombreuses sociétés savantes, comme par exemple la Société asiatique. Vous présidez de nombreuses sociétés savantes, comme la Société d'études du Maghreb, préhistorique, antique et médiévale. Avant de rejoindre le Collège de France, vous avez été professeur à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, puis vous êtes passé par la Suisse, avant de devenir directeur d'études à l'École pratique des hautes études, dans la section Antiquités et codicologies arabes. Vous avez naturellement beaucoup écrit sur les manuscrits arabes et le monde islamique. François Desroches, comment le jeune normalien, agrégé de lettres classiques, né en Lorraine en 1952, en est-il arriver à opérer ce genre de choix?
Bien, je crois que enfant, j'avais déjà beaucoup de fascination pour les écritures étranges. Je me souviens d'avoir eu entre les mains une grammaire de l'égyptien qui m'a non pas orienté vers les études égyptiennes, mais fait comprendre, disons, la complexité des écritures. Et quand j'étais, je crois, en sixième, j'avais un professeur de dessin qui avait décidé de nous faire réaliser une sorte de petit dessin animé sur le sujet de notre choix. Et j'avais choisi une sorte d'histoire de l'écriture. Donc vous voyez que le paléographe sommeillait déjà dans le bambin aux boucles blondes. Enfin, encore que le blond ne soit pas tellement la couleur de mes cheveux, encore moins maintenant. Et donc bon, j'ai effectivement très tôt eu cet intérêt pour les écritures, les systèmes d'écriture. Et après cela, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc poursuivi un cursus d'études classiques qui m'a mené effectivement à passer le concours d'entrée de la rue d'Ulm en lettres classiques. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit peu le sentiment que l'horizon n'était pas étroit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais j'avais envie de faire autre chose après m'être consacré pendant de nombreuses années à ces domaines battus que sont les études grecques, latines, français, etc., etc. Et donc, dans un premier temps, juste après être entré rue d'Ulm, j'ai décidé de m'intéresser à l'Éthiopie.
Pourquoi l'Éthiopie?
C'est aussi une histoire familiale. Mes parents connaissaient Jean Leclan. La grammaire de l'égyptien n'était pas là.
Et on lui doit un très très beau dictionnaire sur les religions aux antiques. Absolument.
Et donc je le connaissais un tout petit peu, bien sûr, c'était un personnage impressionnant pour moi. Et donc une fois ou l'autre, il était passé à la maison quand j'étais encore enfant, à une époque où l'Égypte, après l'expédition de Suez, était pour quelques années fermée aux égyptologues, et c'était l'époque où il avait trouvé une activité archéologique en Éthiopie. Il a monté entre autres le service d'antiquité éthiopienne, et je me souviens donc qu'il parlait de l'Éthiopie, et en particulier il imitait le cri de la hyène, et ça me fascinait beaucoup, et donc je suis resté avec cette espèce de souvenir de l'Éthiopie un petit peu. Et puis alors par la suite, bon, plus grand, j'ai continué un petit peu à cultiver cela, et j'étais très intéressé par tout ce qui était Éthiopie chrétienne, oui, la Libella, des choses absolument superbes.
Et un très bel art, cet intérêt, voilà, la chrétien.
Oui, absolument, c'est un terroir absolument extraordinaire. Et donc, bon, à peine entré rue d'Ulm, je me suis inscrit au Langso pour faire de l'amharique. J'ai fait également du Gezl, l'Éthiopien ancien, et je me voyais déjà un petit peu arriver. Et à rue d'Ulm, j'avais une chance extraordinaire parce qu'on m'a tout à fait encouragé. Et en 1974, au moment où j'étais un petit peu en train d'hésiter sur le sujet d'un mémoire de maîtrise, le responsable du laboratoire d'archéologie, Christian Pell, très spontanément, il m'a dit, écoutez, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'aller faire un tour. Et j'étais allé donc en Éthiopie en 1974. Alors, c'était pas de chance parce que c'était le début de la révolution en Éthiopie. J'ai vu le Négus passer à Addis Abeba pour la fête nationale. Je crois que c'était sa dernière apparition en public. Et après ça, les choses ont évolué d'une manière telle que travailler sur le terrain, c'était devenu un petit peu difficile.
Alors, c'est toujours intéressant, d'ailleurs, les archéologues ou les savants qui travaillent sur un terrain donné, géographique donné, quand ce terrain se ferme, sont obligés d'aller faire d'autres découvertes ailleurs et, en fait, trouvent des trésors à chaque fois différents.
Absolument.
C'est magnifique.
Oui, c'est tout à fait fascinant de voir cette capacité à se reconvertir et à explorer, puisque c'est de cela dont il s'agit. Et alors, j'ai donc un petit peu changé mon fusil d'épaule, tout en travaillant sur l'Éthiopie, je me suis davantage intéressé à ce qui était littérature, manuscrits, etc. Et je prolongé cela en présentant ma candidature à un poste à la Bibliothèque nationale, où Georges Le Rider venait de créer des postes de pensionnaires scientifiques pour des normaliens qui étaient un petit peu entre deux chaises. Il faut souvenir que je suis entré rue d'Ulm en 1973, c'était pas une bonne année, dans la mesure où c'était la guerre du Kippour, et brusquement on nous a dit, il va falloir quand même que vous vous souciez de trouver un peu une solution, parce que les choses ne seront pas aussi faciles qu'elles l'avaient été jusqu'à présent. Effectivement, dans ma promotion, et dans la promotion précédente, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers les études orientales, qui étaient un domaine relativement peu fréquenté. Enfin, il était connu, mais pas très fréquenté par les normaliens. Et également vers d'autres disciplines qui étaient pas aussi classiques, disons, que l'histoire le médiévale ou les lettres classiques, etc., etc. Et donc, j'ai présenté ma candidature avec un magnifique projet qui m'a coûté quand même pas mal d'efforts sur le fonds éthiopien de la Bibliothèque nationale, pensant travailler sur la paléographie de ces manuscrits.
Pardon, il est comment ce fonds? Il est important?
C'est un fonds relativement important puisque il est alimenté par toute une série d'apports qui viennent de voyageurs français qui ont été en Éthiopie, d'Abadi, etc., donc qui ont apporté des manuscrits. Donc on a quand même un certain nombre de manuscrits tout à fait intéressants. Et il n'est pas gigantesque, mais c'est quand même un des gros fonds qui existent en Europe. Et donc il y avait quand même matière à faire une recherche tout à fait sérieuse. Et donc je tout fier d'avoir été accepté, je me suis présenté à la Bibliothèque nationale et j'ai rendu visite à la personne qui était alors responsable des manuscrits orientaux. Et là, j'ai été assez démonté parce qu'elle m'a dit tout de suite que l'Éthiopien ne l'intéressait pas, mais que si je pouvais me charger de faire le catalogue des Corans, ce serait parfait. Et que si ça ne me plaisait pas, je pouvais faire une autre proposition, mais que en tous les cas, l'Éthiopien n'était pas sur la table. Alors, je suis parti en vacances, parce que ça se passait à la fin du mois de juin. Je suis parti en vacances en me grattant un peu la tête, et puis je me suis dit, on va tout prendre. Le Coran, c'est sans doute, un pari tranquille, dans la mesure où tout a été dit sur le Coran, tout a été publié. Donc, je vais faire du Coran pendant 2 ou 3 ans, tout en continuant de manière parallèle mes études éthiopiennes, auxquelles je reviendrai encore plus fort par la suite. Et puis, vous voyez je manquais de préscience dans la mesure où je n'y suis jamais réellement retourné. J'ai toujours une certaine affection pour les études éthiopiennes, mais elle est restée finalement ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire une espèce d'intérêt prononcé, assez poussé, mais pas vraiment un métier dans le domaine de la recherche.
Quelles sont les langues que vous parlez, François Desroches?
Oui, enfin, parler, connaître, parce que...
Enfin, bon, que vous connaissez, voilà, que vous lisez.
Disons que, bon, bah, oui, donc mon cursus classique, ça veut dire le latin, grec. Oui. Et puis donc, quand je me suis intéressé à l'éthiopien, en plus du gaz et de l'amharique, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des langues sémitiques. Donc j'avais fait de l'hébreu, j'avais fait de l'arabe, bien sûr, heureusement, j'avais fait de l'arabe dès ce moment-là. Mm-hmm. J'avais fait aussi, des langues un peu moins, un peu moins connues, enfin, le phénicien, j'ai fait ma thèse sur des inscriptions de l'Arabie saoudite, donc l'Irianite et des Danites. Et puis par la suite, bon, j'avais également appris des langues européennes modernes, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol.
Et le persan ?
Le persan, non, jamais. C'est toujours, c'est un de mes grands regrets, parce que j'ai appris le turc quand j'étais à Istanbul. Donc là, c'était vraiment une opportunité extraordinaire. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de faire du persan, ce qui manque un peu, parce que quand je travaillais, parce que avant d'être dans cette chaire du Collège de France qui est très coranique, mon intérêt c'était l'histoire du livre dans le monde arabe, avec une bonne partie de mon temps consacré à la recherche sur le Coran et sa tradition manuscrite.
Donc mais sur le monde arabe, mais pas sur le monde musulman.
Si le monde musulman, on a copié par exemple le Coran jusqu'à Pékin, depuis le Maroc jusque Mombasa. Donc on a copié en arabe dans l'ensemble du monde musulman et les savants traditionnels sont toujours des gens qui connaissent l'arabe dans la mesure où c'est la langue sacrée.
C'est le latin de l'islam.
Voilà, c'est là où il y a quelque chose qui est un point commun. Donc, et puis, en m'intéressant à l'histoire du livre, finalement, j'ai beaucoup utilisé les manuscrits du Coran comme fil directeur. Ben, c'est un petit peu, finalement, mon propos n'était pas très original. Au XVIIe siècle, on a commencé à faire de la paléographie latine en prenant les Bibles, parce qu'il y en a de toutes les époques, de toutes les provenances, donc on peut faire des comparaisons. Là, c'est un peu la même chose. On a des manuscrits du Coran depuis le 7e jusqu'au 19e siècle et sous toutes les latitudes. Donc on a un corpus qui permet déjà de repérer des faits dominants et de construire un peu les débuts d'une histoire.
Alors quels sont les Corans qui vous ont le plus impressionné quand vous
avez c'est ceux de la Bibliothèque nationale. J'avoue que quand j'ai eu à m'en occuper...
Se fait ? Ça a été nourri par qui ?
C'est une collection très complexe. La collection de manuscrits arabes est une vieille collection, puisque c'est la bibliothèque du roi qui a été alimentée au cours des siècles. Alors bon, il y a des épisodes glorieux sous Louis XIV, avec également Colbert, donc des gros apports.
Et avant, il n'y avait pas de...
Avant, il y avait quelques manuscrits. On a des manuscrits qui sont probablement en France depuis le 16e siècle, qui ont fait, par exemple, il y a des manuscrits avec les armes de Henri III, qui sont dans la Bibliothèque nationale et qui font partie du fonds le plus ancien. Et puis alors, il y a aussi des manuscrits qui sont venus par la suite. Par exemple, il y a un très intéressant Coran qui est un manuscrit du 12e siècle, qui est passé par Istanbul, où il a été acheté par l'ambassadeur de France, qui était envoyé par François Ier, Hugo de Boitaillé, qu'il a acheté...
À l'époque, on était alliés avec...
Voilà, on était alliés
avec les Turcs contre l'Espagne.
Exactement. Et donc, il avait acheté ce Coran. Et en fait, ce Coran est intéressant. Et je m'y suis intéressé avec un collègue espagnol de Barcelone. Il a des notes en latin qui sont de la main d'un dominicain italien qui a eu ce manuscrit donc au XIIIe siècle entre les mains et qu'il a noté pour des histoires de polémiques. Hein. C'est surtout ça qui intéressait les clercs occidentaux à l'époque. Mais c'est un manuscrit donc intéressant parce qu'il a été vraisemblablement copié en Égypte, probablement acquis par ce dominicain qui est allé au Proche-Orient. On a le récit de ses voyages. Et puis alors après ça, il y a un trou entre cette période et son arrivée à Istanbul. Et à Istanbul, enfin Constantinople, c'est aussi pour être plus dans le note de l'époque, il a été acheté donc par Hugo de Boitaillé et il est entré à la Bibliothèque royale. Donc vous voyez, on avait déjà des manuscrits qui étaient anciens. Et puis alors, ce qui a été l'âge d'or du fonds arabe de la la Bibliothèque nationale, c'est bien sûr le 19e siècle où l'expansion européenne fait que il est beaucoup plus facile d'acheter des manuscrits en Orient que par le passé. Avant, on a toute une série de textes où des savants musulmans, par exemple des juristes, disent il faut pas vendre des manuscrits aux chrétiens. On a par exemple un traité de une sorte de réglementation des marchés qui a été composé à Séville à l'époque médiévale, au 12e siècle, si je me souviens bien, où justement il est dit il faut pas le vendre des textes aux chrétiens, parce qu'après ça, ils se vantent d'être eux-mêmes les auteurs, etc. Il faut penser que tout ça se passait dans un contexte un petit peu d'espionnage. Louis XIV encore fait acheter des manuscrits d'Ipiatri, par exemple, en Orient, pour savoir comment est-ce que les infidèles soignent leurs chevaux, dans la mesure où c'est une information qui est peut-être confidentielle. Et donc, au XIXe siècle, on a une espèce d'accélération des acquisitions. Et alors, pour moi, ce qui était le plus intéressant, c'est la collection Aslan-Cherville. Aslan-Cherville, c'est un ecclésiastique qui, finalement, n'est pas devenu ecclésiastique à cause de la Révolution. Il s'est retrouvé à Paris, il a fait de l'arabe avec Sylvestre de Sacy, ouais. Et qui est mon héros,
prédécesseur.
Oui, mon prédécesseur, et c'est un personnage assez terrifiant. À l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, son buste est juste en face de l'endroit où vous prenez place quand vous donnez une communication, et comme il a l'air assez sévère, on a l'impression d'être très contrôlé. Et donc, Aslan-Cherville est allé en Égypte en tant qu'agent consulaire français. Il a vécu au Caire. Et là, il a acheté des manuscrits. Certains, il les a achetés parce que Sylvestre de Sacy lui avait fait une sorte de liste d'achats à faire, dont il s'est bien sûr servi. Et il a également découvert, enfin pas tout à fait découvert, puisqu'il y avait un autre Français qui était passé peu de temps avant lui, au moment de l'expédition d'Égypte, il a eu accès à un dépôt de manuscrits coraniques en mauvais état, qui était conservé dans une des mosquées du Caire, dans une pièce où il y avait par terre des feuillets de vieux manuscrits.
C'est comme
la Guénisa du Caire, ouais. C'était exactement la même conception, c'est-à-dire que on ne voulait pas les mettre en situation d'être souillés, donc on les mettait dans une pièce fermée, on les entassait, on n'en prenait pas soin dans la mesure où Dieu y pourvoirait, et ils attendaient comme ça. Et donc Jean-Joseph Marcel, qui faisait partie de l'expédition d'Égypte, en avait déjà acquis quelques-uns, et après lui, Aslan-Cherville est venu, et lui, il en a acheté beaucoup plus parce qu'il est resté plus longtemps, et il avait sans doute un plan, puisque dans une des lettres qu'on a conservées, il parle de son projet de faire une paléographie arabe. Donc il avait acheté, alors ces feuillets, qui sont des feuillets qui couvrent une période qui va du 7e au 10e, peut-être au 11e siècle, donc des choses vraiment très anciennes, dont des fragments de Coran, tous sont des Corans, mais des fragments qui remontent vraiment à la deuxième moitié du 7e siècle. Donc, parmi les documents les plus anciens qu'on ait à ce sujet.
François Desroches, on sait qu'en 1970 a été découverte au Yémen une bibliothèque cachée entre le toit et un faux plafond. Et donc, grâce à cette bibliothèque qui contenait diverses versions du Coran, vous avez pu aussi, enfin, on a pu tous avoir d'ailleurs accès à des documents tout à fait passionnants. Est-ce qu'ils viennent compléter ce dont vous venez de nous parler, par exemple, ou quels sont les rapports?
Tout à fait. Voilà. Oui, donc la situation est la même. C'est encore une fois une Guénisa, c'est-à-dire ce sont des feuillets de Coran qu'on ne pouvait pas jeter à la poubelle, donc on les a mis là.
C'est le texte sacré.
Voilà, c'est le texte sacré, donc on n'y touche pas, et on l'a mis à cet endroit parce que à cet endroit rien ne pouvait se passer. Si destruction il y avait, ce serait pas du fait, disons, d'êtres humains, mais incendie ou les insectes ou que sais-je. Et alors la chose intéressante, c'est que dans ce dépôt, il y avait des manuscrits tout à fait hors du commun, dont on n'a pas de traces ailleurs. Donc un très grand Coran qui doit dater du début du 8e siècle, d'après les études qui ont été faites par des collègues allemands, avec en particulier deux pages enluminées qui ont eu un succès extraordinaire, dans la mesure où ces deux représentations de bâtiments, probablement des mosquées, étaient une première. On n'avait jamais vu ça avant, et ça changeait complètement notre perspective. perception de l'art oumayyade, par exemple. Et puis alors, il y a un deuxième document qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le fameux Palimpseste. Donc ça, c'est un document tout à fait intéressant, parce que le Palimpseste, ce sont donc des parchemins dont on gratte l'écriture pour réécrire dessus. Alors, en Occident, c'est quelque chose d'assez commun, mais pour le monde musulman, on n'a pas tellement de Palimpseste. Pour une raison très simple, c'est que le papier est arrivé beaucoup plus tôt qu'en Occident. Il faut penser que peut-être dès le début du IXe siècle, les gens utilisent le papier pour les manuscrits. Donc, il n'y a pas eu le temps de reconvertir beaucoup de vieux Corans en de nouveaux Corans, puisque le cas du Palimpseste de Sana se place dans un contexte parfaitement musulman. La couche ancienne, c'est un texte coranique. C'est pas le texte canonique, mais c'est un texte coranique. Et la couche supérieure, c'est un autre Coran, mais cette fois-ci parfaitement canonique. Donc on est dans ce contexte-là. Et la couche inférieure, la plus ancienne, celle qui a été grattée, contient effectivement des variantes qui ne s'accordent pas complètement avec le texte que nous avons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui renverse complètement tout ce qu'on savait sur l'islam. C'est souvent une autre façon de formuler, mais c'est intéressant puisque ça pose la question de savoir s'il n'y avait pas effectivement plusieurs Corans concurrents au tout début de l'islam, vers le milieu du 7e siècle.
L'Avesta, la Bible, le Nouveau Testament, le Coran est issu visiblement, d'après ce que vous êtes en train de nous expliquer, d'une diversité de traditions qui se reflètent dans des diverses rédactions et sans doute aussi, bien entendu, dans les multiples lectures. Ça prouve d'ailleurs qu'il s'agit de textes bien vivants, même si aujourd'hui certains intégristes qui idolâtrent la lettre plutôt que d'en partager l'esprit, en font un livre mort. Mais avant d'aborder cette question de la fabrication du texte coranique, est-ce que vous pourriez, François Desroches, nous parler du contexte de son surgissement? Quelles étaient les langues, quelles étaient les religions, qui étaient là au moment où, au fond, le Coran a surgi?
Alors, une des idées qui circulent beaucoup en ce moment et qui me semble intéressante, c'est d'insister sur le fait que le Coran est un texte de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel très brutalement. Il est dans un contexte qui est celui donc de l'Antiquité tardive. Les découvertes qu'on a faites récemment dans la péninsule arabe, archéologique et épigraphique, montre que le contexte d'apparition du Coran est sans doute différent de celui que la tradition musulmane nous a présenté. La tradition musulmane insiste beaucoup sur cet état d'ignorance, une espèce de paganisme brutal qui régnait. Oui. Et donc, brusquement, dans ce milieu, vient l'annonce du message coranique qui, effectivement, fait la différence entre l'avant et l'après.
Mais enfin, on a ça dans toutes les religions révélées.
Voilà, c'est un scénario.
Avant, après la Bible, avant, après les évangiles.
Voilà. Alors, simplement, disons que c'est vrai que pour la Bible, Bible, on a en Europe déjà maintenant quelques siècles de réflexion critique sur la Bible. Alors c'est vrai que la situation du texte par rapport aux fidèles est différente. Il faut bien rappeler que le Coran, c'est pour les musulmans, de manière très littérale, la parole de Dieu. Et pour la tradition dominante, qui représente quand même une simplification de ce que pensaient un certain nombre de savants musulmans médiévaux, c'est quelque chose, un message qui n'a pas bougé d'un iota depuis, disons, le prophète, ses révélations, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ce que nous voyons à travers les manuscrits, ce que nous voyons à travers une étude plus attentive de la tradition musulmane elle-même, dans certains écrits qui n'ont pas été, disons, tellement pris en considération par les grands esprits qui ont synthétisé les choses vers le 15e siècle, je pense à Suyuti, qui fait en quelque sorte un état de la question, qui gomme les différences et qui insiste au contraire sur les éléments qui unifient. À l'époque ancienne, on a quand même, disons, des voix discordantes. Et de toute façon, depuis très très longtemps, on sait que dans les années qui ont suivi la mort de Mohammed, il y a eu plusieurs versions qui ont vu le jour. Il y a le fameux Ibn Mas'ud, qui est un proche de Mohammed, qui aurait eu sa propre version, ou Bay, etc., et un certain nombre d'autres personnages de premier plan qui ont eu une version du Coran. Et dans le cas d'Ibn Mas'ud, c'est intéressant de voir que au début du Xe siècle, un savant musulman, Ibn Mujahid, avec l'appui du califat abbasside, décide qu'il y a un certain nombre de versions du Coran qui ne sont plus acceptables dans des conditions rituelles. C'est-à-dire que au moment d'une prière, on ne peut pas utiliser sa version. Et donc, il fait condamner et fouetter un de ses rivaux qui, lui, utilisait la version d'Ibn Mas'ud de manière à ce que les choses soient bien claires. Et effectivement, ce rival malheureux, Ibn Shanabud, est obligé de reconnaître publiquement qu'il s'était trompé. Donc, cet épisode marque la fin de cette espèce de polyphonie qui existait au début, qui est allée en se réduisant peu à peu.
Donc, il a établi la version
aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que donc il a simplement fini par faire passer l'idée que la version qui est associée au calife Osman était la version, comment dirais-je, qui était la bonne
d'origine.
Pour le texte consonantique, puisque l'arabe est donc une écriture un petit peu compliquée dans la mesure où vous avez des éléments qui doivent absolument être écrits, qui correspondent grosso modo aux consonnes, et puis la vocalisation qui, elle, peut ne pas être écrite.
C'est tout le problème des langues sans voyelles. Hein.
Voilà, c'est le problème de l'hébreu,
de l'araméen,
et du syriaque. Donc, il y a effectivement une part d'interprétation quand on lit un texte. Alors, quand c'est un texte de l'importance du Coran, l'enjeu peut être réellement très important, puisque, et on le voit dans les anciens manuscrits, au niveau simplement du squelette consonantique, s'écrit de la même façon, tu fais, il fait, nous faisons. Donc, théologiquement, ça peut avoir des incidences, puisque si c'est vous, si c'est moi, si c'est nous qui faisons, ça peut ne pas avoir la même importance. Donc, il y a des ambiguïtés qui existent dans la notation de ce texte consonantique, même si, à l'époque, on savait déjà faire la distinction entre les différentes consonnes qui s'écrivent de la même manière. Mais très curieusement, les copistes de l'époque ancienne décident que ça n'est pas quelque chose d'important. Ils étaient sans doute dans l'erreur, puisque ce qu'on voit, c'est que progressivement, ils mettent de plus en plus de soin à bien distinguer ce qui permet de reconnaître « tu »,« il » et « nous ». Mais les voyelles n'avaient pas de signe pour être notées, parce que l'alphabet n'était qu'un alphabet consonantique. Donc il fallait inventer des signes, ce qui a dû se passer vers la fin du 7e siècle. Donc pendant quand même presque un demi-siècle, même sans doute au-delà, c'est un élément du texte qui n'a pas été fixé par écrit, qui est sans doute partie d'une tradition orale qui a continué à côté du texte écrit.
Oui, mais alors, au fond, si je vous comprends bien, le Coran a fixé, au fond, la langue, c'est ça ?
Alors, le Coran est un texte qui est quand même extrêmement curieux, très, très intéressant, puisque c'est ce qui fonde l'arabe en tant que littérature.
Oui, mais en même temps, par exemple, quelqu'un comme un de vos collègues, Monsieur Durand, qui s'occupe de la Mésopotamie, disait que, en réalité, la langue n'avait pas tellement bougé entre 2 ou 3 000 ans et maintenant. Enfin, il y avait certainement très peu de fluctuations. Par exemple, par rapport au français, on ne comprend rien au français médiéval, par exemple. Bon, alors que lui pense que justement, il y a une espèce de continuité et de fluidité dans la langue. Alors, qu'est-ce que le Coran a opéré dans cette langue
le Coran note un arabe qui n'est parlé par personne. Enfin, c'est-à-dire que il est une norme littéraire, mais si vous voulez, ce que les gens parlent dans la rue n'a rien à voir.
Surtout que chacun a sa tradition.
Alors, il y a effectivement des arabes dialectaux. L'arabe du Coran est un arabe extrêmement sophistiqué, disons, qui va servir de modèle absolu. Dans la mesure où, comme c'est un, pour la tradition musulmane, c'est un miracle. Le Coran en lui-même est un miracle. Mm-hmm. Donc, ça sert de référence absolue et ça va servir de modèle pour une littérature qui est relativement difficile d'accès pour les gens qui parlent l'arabe de la rue.
Une littérature savante.
C'est une littérature plutôt savante, effectivement. Puis après ça, bon, au cours des siècles, les choses se détendent un petit peu. Mais il y a, disons, une différence entre les deux. Et alors, en plus, le style du Coran est un style extrêmement déconcertant dans la mesure où c'est très ramassé. Et si vous prenez par exemple la traduction de Régis Blachère, qui est une bonne traduction du Coran en français, oui. Vous notez qu'il met beaucoup de mots entre crochets parce que ce sont des mots qui ont besoin d'être ajoutés au texte pour le comprendre. C'est-à-dire que si vous traduisez littéralement de l'arabe en français, ce qui est possible, vous avez des tournures extrêmement elliptiques qui ne vous permettent pas de suivre ce dont il s'agit. Il faut ajouter des éléments et de fait, les exégètes musulmans passent leur temps à expliquer ce que veut dire le Coran, à essayer de rendre l'idée du message parce que le commun des mortels peut ne pas le comprendre.
D'où les interprétations magnifiques et diverses et multiples que nous possédons justement.
Voilà, alors les tafsirs reflètent eux leur époque, les options de leurs auteurs, mais ce sont autant de lectures du Coran. Et alors, d'un autre côté, le texte du Coran brut a une sorte de vertu particulière, puisque je me souviens d'une anecdote très intéressante à propos de musulmans installés en Afrique orientale, d'origine indienne, qui tous les matins mettaient la radio avec une récitation du Coran pour en quelque sorte purifier la maison. Ça n'était pas tellement pour entendre et comprendre, mais cette musique, cet ensemble de sensations qu'ils avaient en écoutant le texte était pour eux quelque chose de tout à fait important. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait spécifique à la tradition musulmane.
Mais alors, François Desroches, dans ce contexte, quel a été exactement le rôle du prophète Mahomet ? Parce qu'il a, au fond, cristallisé le texte.
Alors, lui annonce, il reçoit, pour la tradition musulmane, donc il reçoit des révélations et il les annonce à des auditeurs. Et alors, on n'a pas beaucoup d'informations très précises, même si la tradition musulmane, après, a multiplié des récits pour donner des explications de pourquoi tel verset avait été révélé.
C'est ça. Ouais.
Ça, ce sont plutôt des choses qui ont été inventées a posteriori.
Comment, puisque vous dites que c'est un texte de l'Antiquité tardive, comment à un moment donné est-ce qu'il a pu, ces divers fragments de texte ont pu s'incarner, se cristalliser autour d'un nom ? Alors, est-ce qu'ils se sont retrouvés au même lieu, au même moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Est-ce
qu'on a des hypothèses ?
Oui, alors il y a beaucoup d'hypothèses. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'hypothèses récentes qui partent de l'idée que le texte coranique reprend des textes plus anciens, d'origine généralement chrétienne, mais enfin aussi des il y a aussi
l'arianisme par exemple sans doute plutôt,
c'est ça, il y a également des expressions qui sont attribuées au manichéisme. Alors bien sûr ça pour l'islam c'est quelque chose d'inacceptable dans la mesure où le texte a été révélé. C'est vrai c'est que la Bible et les évangiles sont reconnus comme un des textes révélés. Le Coran parle de la Bible, fait allusion de manière extrêmement répétée à des histoires bibliques. Et même, c'est là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du contexte. La Bible était quelque chose qui était tout à fait familier des auditeurs de Mohammed qui, dans un certain nombre de cas, fait allusion à des récits bibliques. Il ne les raconte pas. Il
et même du Nouveau Testament, puisqu'on parle de Myriam,
voilà.
De Jésus.
Voilà, hein. C'est ça. Donc parfois, le récit est un peu plus détaillé, mais très souvent, c'est « souviens-toi d'un tel ou d'un tel », dans la mesure où les auditeurs avaient sans doute déjà une connaissance.
C'est un travail de job, presque. Hein.
Voilà. Et alors, il faut aussi imaginer, et ça c'est une hypothèse qui a été faite, que la façon d'annoncer le texte coranique par Mohammed devait impliquer des jeux de scène, des changements de voix, dans la mesure où il y a aussi des dialogues, il y a donc des choses qui passent vraisemblablement par une énonciation très particulière.
Ceci dit, il y a moins de récits dans le Coran que dans les autres livres révélés. Il n'y a pas autant de récits que dans la Bible, ni même autant que dans les Nouveaux Testaments.
Non, absolument, et même pour un petit groupe de musulmans hétérodoxes, la sourate Yusuf, la 12e sourate, ne fait pas partie du Coran parce qu'ils trouvent que c'est trop romanesque et ça fait partie justement des débats sur la question de savoir ce qu'est le Coran, un débat qui a aussi animé les milieux musulmans. Et alors, c'est vrai que le Coran ne raconte pas, hein, c'est pour ça que les lecteurs d'une traduction du Coran seront déconcertés parce que c'est un matériel qui est organisé de manière assez surprenante. Les sourates sont rangées par ordre de grandeur décroissante, c'est-à-dire que les plus longues sont au début, les plus courtes à la fin, ce qui n'a absolument rien à voir avec la chronologie du texte, puisqu'on sait que les sourates les plus courtes sont vraisemblablement parmi les plus anciennes et inversement les plus longues parmi les plus récentes. Et puis, quand vous prenez un de ces chapitres ou sourates, vous observez que le contenu est parfois très brisé, c'est-à-dire que vous avez un argument qui est lancé,
ça,
puis on passe à autre chose. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui, pour un lecteur occidental, sont un petit peu difficiles à comprendre dans la mesure où nous sommes davantage habitués à des récits linéaires. Et bon, la Bible en est l'exemple
parfait,
modèle.
Hein. C'est
on suit toute une histoire qui est construite de manière cohérente et où les exégètes trouve justement un sens
presque cohérent.
Mais pour le Coran, les choses sont très différentes dans la mesure où il y a ces ruptures. Et alors, une des hypothèses intéressantes, c'est celle qu'avait faite, alors là encore, il faut l'appliquer dans certains cas et pas de manière systématique, mais dans certains cas, c'est tout à fait intéressant. Richard Bell, hein, qui a traduit le Coran en anglais dans les années 30, avait observé justement que parfois, il y avait des rimes cachées, des passages de même taille. Et donc, il avait fait l'hypothèse, dans un certain nombre de cas, d'une sorte de travail d'édition. C'est-à-dire que on sait, le Coran le dit lui-même, que les révélations sont venues par petits bouts. Donc, les sourates ne sont vraisemblablement pas l'unité de révélation, c'est plutôt du domaine du verset ou du groupe de versets. Et à un moment, quand on met ces passages ensemble, et là encore, la tradition musulmane nous montre Mohammed en train de dire ah ben ce verset il prend place à tel endroit ou à tel autre, quand ce travail a été fait, vraisemblablement, il s'est accompagné d'un travail d'édition qui a été un travail de mise en forme. Le style coranique repose sur la récurrence de rimes à la fin des versets. Et donc, dans un certain nombre de cas, on voit que des versets qui parlent de quelque chose se terminent par une formule très générale, et Dieu est plus grand, et Dieu est ceci ou cela, et Dieu fait ce qu'il veut, qui souvent n'apporte pas de complément au sens même du verset,
oui.
Mais ils apportent une rime.
Ça doit être beau d'ailleurs à entendre.
C'est très beau à entendre, effectivement.
La récitation
coranique est un art. Hein.
Un art à part entière, vous voulez dire.
C'est un art à part entière. pensait qu'une chanteuse comme Oum Kulsoum était une professionnelle de la récitation coranique également.
Oui,
c'était donc c'est un et on a des concours à l'heure actuelle, des concours de récitation pour justement identifier la personne qui récite le mieux le Coran. Donc c'est vraiment quelque chose de très codifié et de très apprécié. Hein. Moi-même j'ai le souvenir d'avoir assisté à un repas par exemple une fois au Maroc et à la fin du repas donc il y a eu
un
chanteur qui est venu réciter des passages du Coran et là je me souviens l'assistance était très comment dirais-je très émue d'entendre ce genre de choses.
François Desroches, vous travaillez actuellement aussi à établir, au fond, avec une équipe, je pense internationale sans doute, aussi une version du Coran. En quoi consiste ce travail et comment est-ce que vous procédez ?
Alors, non, ça n'est pas une version du Coran, dans la mesure où ce serait peut-être me placer dans une situation qui n'est pas la mienne. Non, ce sur quoi nous travaillons, c'est avant tout à essayer de repartir des enregistrements les plus anciens que nous ayons. Il faut savoir que on possède des manuscrits qui ont été copiés dans la deuxième moitié du 7e siècle, donc certains d'entre eux sont postérieurs, peut-être de 20-30 ans, à la mise par écrit du Coran, ce qui est un laps de temps extraordinairement court quand on pense
aux évangiles, par exemple, ou à
la Bible.
La Bible, c'est encore plus important.
On est vraiment dans une échelle de temps tout à fait intéressante.
Parce que sans doute, il y avait beaucoup plus de gens qui pouvaient concentrer écrire.
Si vous voulez, le Coran fait beaucoup référence à lui-même. Il se nomme lui-même, il se désigne comme Coran, comme livre, Kitab. Et alors, on discute beaucoup sur ce que veut dire le mot Kitab dans le Coran. Ça, c'est un problème, je crois, qu'on peut laisser de côté, mais pour les auditeurs de l'époque, l'annonce, elle était claire. C'était un livre qui était sur le point d'arriver, puisque il est question de la descente, la révélation du livre. Et c'est la sourate 2, d'ailleurs, commence en faisant allusion à ce livre. Livre qui ne pouvait pas exister tant que Mohammed était vivant, dans la mesure où il ne pouvait pas être bouclé. Hein, comme je le disais tout à l'heure, comme la structure du Coran est complètement à l'inverse de la chronologie, hein, les éléments les plus anciens étant à la fin et les plus récents au début, donc on ne pouvait pas copier, c'était pas comme prendre une sorte de cahier de notes, comme on le ferait aujourd'hui, de prendre la dernière page et de noter la révélation du jour et puis celle du lendemain. C'est un processus beaucoup plus complexe qui fait fi de la chronologie, qui procède à des ajouts dans des éléments qui existent déjà, même parfois à des suppressions, puisqu'on a des allusions à des suppressions. Donc c'est une gestion du texte qui ne s'accommode pas du tout de la structure du livre codex, telle qu'on la connaît à l'époque. Et donc, une fois que la voix qui annonce le Coran se tait, à ce moment-là, oui, on peut commencer à faire un livre, et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que, en plus, le concept de peuple du livre, qui concerne essentiellement donc les juifs et les chrétiens, peut-être aussi les zoroastriens,
c'est quand même un livre.
Oui, mais enfin bon, disons que jusqu'à quel point la notion les concernait, mais enfin, on va faire considèrent comme la tradition dominante, qui considèrent qu'ils font partie de ce groupe.
Je vous remercie pour le professeur Kellas.
et donc ces allusions à ces autres peuples du livre est bien sûr une invitation pour les musulmans, alors qu'ils sont en train de sortir de la péninsule arabe, de faire la même chose. Ils sont une religion à qui on a annoncé un livre, et puis ils se retrouvent dans un contexte du Proche-Orient où vous avez les chrétiens qui ont parfois des manuscrits énormes. Pensez au Codex Sinaiticus, qui est un énorme manuscrit. Eux se retrouvent avec rien entre les mains, c'est impossible. Donc il faut un livre, et ce qu'on constate quand on étudie justement les manuscrits de cette époque, non pas tant d'un point de vue textuel, mais cette fois-ci d'histoire du livre, on voit qu'il y a une espèce de surenchère dans la dimension des Corans, qu'on les fait gonfler de manière...
Un livre en entraîne un autre.
Voilà, c'est ça. Et surtout, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'il y a une surenchère probablement apologétique, également politique, dans la mesure où il y a des concurrences internes entre les Omeyyades, les Abbassides. Donc on voit en l'espace d'un siècle des manuscrits qui sont de taille, disons, normale, d'un A4 peut-être un petit peu plus développé, et on passe à des volumes qui font 50 cm de haut sur autant de large, donc des ouvrages absolument impressionnants. Et une des photos avec lesquelles je me taille généralement un succès facile, c'est la photo d'un manuscrit qui est actuellement conservé au Caire, à côté duquel la personne qui est en train de travailler dessus fait presque figure de nain. Enfin, le livre est aussi gros que lui.
Ah,
donc
magnifique.
Ça, c'est une image extraordinairement saisissante, et quand vous montrez ça, les gens immédiatement s'exclament, parce que c'était le but des promoteurs de ce manuscrit, donc vers le milieu du 8e siècle, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au 21e siècle, on continue à s'exclamer en voyant ce Coran.
C'est une forme de représentation divine.
Voilà, on joue sur la symbolique du livre, sur la visualisation, dans la mesure où c'est également un livre qui ne peut être que le Coran. C'est le plus gros, c'est le plus grand, c'est le plus fort, le plus beau aussi. Enfin, ça tardera un petit peu plus, mais ça fait partie, disons, d'un défi qui était lancé à la communauté musulmane et que elle a été capable de remplir, enfin, auquel elle a été capable de répondre parfaitement, dans la mesure où c'est un empire tout entier dont les ressources étaient mises à disposition de ce genre de choses. Parfois, il s'agit de détails triviaux, mais ce manuscrit, par exemple, a demandé à transformer 1000 moutons en parchemin. Donc, un troupeau énorme qui a été converti en un livre. Mmh. On parle d'investissements absolument colossaux pour l'époque.
Alors, ce que vous faites, vous, avec votre équipe sur le Coran, c'est quel type d'opération? Est-ce que vous pouvez nous dire?
Donc, nous intéressons à des manuscrits un peu plus anciens que celui dont je viens de parler, oui. Des manuscrits qui datent de la période qui s'étend, disons, de 650 à 700.
Donc, avant l'établissement
Après l'établissement. Le texte, en principe, a déjà été établi par Haussmann, enfin, vers 650, la date, c'est vers 650-655, disons. Le texte est mis par écrit, et donc les manuscrits que nous possédons sont des manuscrits qui, semble-t-il, sont des copies de deuxième génération, pour dire les choses de manière un petit peu simplifiée. Et donc, dans ce laps de temps, il n'y a vraisemblablement pas eu beaucoup d'évolutions, il y en a certaines, mais pas trop. Et donc notre idée, c'est de travailler avec ces documents qui sont absolument extraordinaires, puisqu'ils sont pratiquement contemporains de Muhammad, enfin légèrement plus récents, mais pas beaucoup, pour essayer de voir quel était l'état du texte à cette époque. Alors, bien sûr, c'est un état qui est partiel, dans la mesure où ce que nous avons, ce sont des manuscrits où seuls sont notées les consonnes. Il manque justement toute la vocalisation qui va venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc notre but, c'est déjà de faire l'état du texte consonantique, voir quelles sont les variations par rapport à ce que nous connaissons, et puis, toujours à l'aide des manuscrits, de voir progressivement la vocalisation qui se met en place, en pouvant dater, grâce au manuscrit, le moment d'apparition des vocalisations. Apparition par écrit. Hein, les vocalisations, bien sûr, elles existent pour certaines, bien antérieures.
Oui, depuis toujours.
Voilà, depuis toujours. Enfin, certaines existent certainement depuis
longtemps.
Mais elles sont notées à partir de tel moment ou à partir de tel autre. Et comme un certain nombre de ces vocalisations, après cela, sont considérés comme non valables, c'est intéressant de voir justement quel a été le travail de simplification qui s'est fait. Donc notre but, c'est de travailler un peu avec une sorte de feuilletage dont la base serait constituée par le texte consonantique et après ça, les différentes strates orthographiques et vocaliques qui viennent s'ajouter pour compléter le texte du Coran et lui donner la possibilité d'être lu par quelqu'un qui ne le connaîtrait pas déjà par cœur. Actuellement, si vous prenez un Coran, à condition bien sûr de lire l'arabe, vous pouvez lire le texte de manière correcte, sans faire de fautes théologiques graves. Si vous prenez un texte d'un de ces Corans du milieu du 7e siècle, si vous ne connaissez pas l'arabe, vous pouvez dérailler très fortement. Enfin, je cite souvent cette plaisanterie qui est faite à propos d'un savant du 8e siècle qui est l'un des garants d'une des formes de lecture du Coran. On se moque de lui. Enfin, c'est l'interprétation que je fais de l'histoire parce que au début de la deuxième sourate, il lisait au lieu de doute Ra'ib, il lisait Zaït, huile. Lui-même étant connu sous le nom du vendeur d'huile. Donc c'était une mauvaise plaisanterie, mais enfin c'était pour dire que avec le squelette consonantique très mal noté de l'époque, on pouvait confondre les deux mots Raïb Zaït, hein, ce qui est quand même bon, c'est pas la même chose, mais bon alors là dans son cas c'est un petit peu ça pousse le bouchon peut-être un petit peu loin, mais c'est intéressant de voir que les gens pouvaient plaisanter de cette manière, précisément parce que le texte le permettait.
François Desroches, j'ai plus tout à fait le temps de vous interroger sur vos cours, parce que ce que vous disiez était tellement...
Vous donnerez une deuxième chance.
Absolument. Ce que vous dites est tellement passionnant, mais j'aimerais quand même que vous nous disiez deux mots sur les cours que vous avez commencé de faire au Collège de France.
Alors François Desroches. Commençant, disons, le 2 avril, c'était un petit peu juste pour donner beaucoup d'espace. Donc, le cours de cette année, c'est plutôt une sorte de panorama de la situation, c'est-à-dire reprendre les récits de mise par écrit du Coran pour comprendre ce qui s'est passé. C'est quand même un épisode fondateur. On le connaît par la tradition musulmane. Qu'est-ce que on peut en tirer? Qu'est-ce que nous disent les documents qui ont été conservés, c'est-à-dire les manuscrits? Et puis également, quelles sont les lectures qui en sont possibles? Puisque finalement, pendant longtemps, les orientalistes ont accepté le récit dominant de la tradition musulmane en retouchant par-ci par-là parce que c'était peut-être un petit peu trop comme ceci, un peu trop comme cela, mais grosso modo le scénario global était accepté. Puis dans les dernières années, la tradition, disons hypercritique, c'est le nom qu'on lui a donné, qui existait déjà vers la fin du 19e, début 20e siècle, mais sur un mode assez mineur, est brusquement passée sur le devant de la scène avec des théories comme celle de Wansbrough, qui dit beaucoup de choses sur le Coran, mais l'une d'entre elles était particulièrement, disons, exagérée. Pour lui, la mise par écrit du Coran aurait eu lieu à la fin du 8e et même plutôt au début du 9e siècle. Donc, beaucoup plus tardivement que tout ce qui était dit. Alors, bien sûr, ça a mis beaucoup d'émoi dans le landerneau orientaliste, dans la mesure où il fallait prendre position. Alors, c'est vrai que sur ce point-là, c'était facile de répondre, dans la mesure où, comme on a des manuscrits dont on sait maintenant qu'ils sont de la deuxième moitié du 7e siècle, partie de la théorie tombe d'elle-même. Bien Donc sûr. Ça, c'était quelque chose d'assez facile. Mais il y a encore d'autres hypothèses qui sont faites sur le Coran. Donc celle de Christophe Luxemburg, c'est un pseudonyme d'un collègue germanophone, qui pense que avant le Coran tel que nous le connaissons, il y a eu en quelque sorte un prototype en syriaque, en écriture syriaque, avec des fautes de lecture ou d'écriture qui ont affecté le texte et qui expliquent que sur certains points, le texte coranique n'est pas compréhensible. C'est pas une nouveauté. Depuis longtemps, il y a des mots dans le Coran qui font problème, ce qui est assez curieux, puisque on a des commentateurs du Coran qui datent du 8e siècle, et pour eux, certains mots font problème, alors qu'on est seulement un siècle plus tard. Ouais. On serait dans un cas où se sont passés plusieurs siècles, on se dirait, bon, c'est normal. Là, il y a quand même quelque chose qui est problématique. Ouais. Alors, l'exemple qui a eu le plus de succès, c'était son interprétation des fameuses houris. Il arrivait à la conclusion que, en fait, le mot qui a été compris comme houri, donc une jeune femme paradisiaque et séduisante, en fait, c'était des raisins blancs. Donc, bien sûr, cet aspect du texte changeait complètement. Alors, je l'entendais récemment me dire qu'une de ses plus grandes satisfactions, c'était de recevoir un courriel d'une jeune Marocaine qui lui écrivait pour le remercier de cette interprétation qui lui avait presque rendu la foi, dans la mesure où ça lui semblait un peu, disons, quelque chose de difficile à accepter, cette notion de houri. Mais en revanche, s'il s'agissait de raisins blancs et ça lui semblait intéressant, c'était quelque chose, ça m'a semblé tout à fait charmant comme réaction. Bien et je comprends sûr. Tout à fait que lui-même en ait été ravi. Donc voilà, c'était un petit peu faire le point de toutes ces lectures contemporaines du Coran qui sont intéressantes dans la mesure où elles obligent à réfléchir et argumenter, et puis également réfléchir sur ce que voudrait dire éditer le Coran, parce que c'est pas, encore une fois, il s'agit pas de faire la concurrence. Il y a une édition du texte coranique qui a vu le jour en Égypte en 1925, qui répond tout à fait aux besoins des fidèles musulmans et qui, je crois, est utilisée par les orientalistes à l'heure actuelle comme texte de référence. Mais, bien sûr, ça ne répond pas aux questions des historiens comme moi qui ont besoin d'avoir un outil qui soit plus performant, qui contienne des informations que une édition, à caractère religieux, ne permet pas de trouver.
Qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme traduction en français, François Desroches, à une ignorante comme moi ?
J'aime bien celle de Denise Masson, qui est une femme formidable et qui a fait une traduction. Alors, celle de Régis Blachère est un peu parfois un petit peu difficile à lire parce que bon, il opte pour des néologismes pour rendre le texte. Je trouve que celle de Denise Masson est une de celles qui passe le mieux.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait peut-être conclure cet entretien, François Desroches, sur une sourate du Coran en arabe ?
Oh, là, vous me demandez de réciter le Coran, mais mes compétences dans le tajwid, c'est-à-dire la récitation coranique, n'en sont pas du tout de mon fait. Je préfère laisser ça à des lecteurs
plus
compétents que moi en ce domaine.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui François Desroches, titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours de François Desroches sur les chemins de la canonisation du Coran. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.